Bienvenue sur De la recherche à l'impact, le balado de l'innovation québécoise issue de la recherche publique. Au Québec, on réussit très bien dans le domaine de la recherche fondamentale. Mais est-ce que les résultats de la recherche aboutissent à une innovation qui a un impact positif pour la société? Je m'appelle Gad Sabatier, gestionnaire de projet d'innovation chez Axelis. Chez Axelis, nous contribuons à la prospérité économique du Québec en accélérant le développement et le transfert d'innovations à haut potentiel issues de la recherche publique. De la robotique aux biotechnologies, en passant par les sciences de l'éducation, l'intelligence artificielle, les technologies propres, ou quel que soit le domaine, notre équipe accompagne chercheurs, créateurs, innovateurs, entrepreneurs, entreprises et établissements tous les jours à maximiser leur impact sur la société de demain. Dans ce balado, nous voulons vous partager les histoires extraordinaires des innovations qui façonneront le monde de demain. Dans cet épisode, nous allons discuter d'une innovation qui concerne l'anxiété chez les enfants dans un contexte de chirurgie. Il faut savoir que plus de 50% des enfants de 5 à 12 ans qui arrivent à l'hôpital pour une chirurgie présentent des signes d'anxiété. Et 6% d'entre eux présentent des troubles anxieux jusqu'à un an après la chirurgie. En effet, lorsqu'on réfléchit à ce qu'est l'hôpital, on pense à des murs blancs et ternes, des salles d'attente à n'en plus finir, à des médicaments, des instruments qui font bip bip, et tout ce qu'on nous raconte sur la pénurie de main-d'œuvre dans le système hospitalier. Maintenant, imaginez que lorsque vous rentrez à l'hôpital, on vous installe des lunettes de réalité augmentée. Puis, tout d'un coup, un petit bonhomme bleu nommé Écou apparaît. Écou vient du monde des équanimes. Et tout en vous faisant visiter son monde, Écou vous apprend des techniques de relaxation. Écou est là pour veiller sur vous de l'entrée à l'hôpital à la salle de chirurgie. Ce parcours existe pour de vrai et est implanté aux Chutes Québec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Martin Thibaudeau, le créateur d'Écou. Bonjour Martin, comment vas-tu?
Bonjour Gad, ça va très bien. Content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui.
Comment va ton projet en ce moment?
Ben écoute, là, c'est toujours des beaux défis à l'hôpital, donc on rencontre toujours les enfants et tout. Donc, mais présentement, on est plus là, dans l'élaboration de la suite du magnifique projet Écou.
Très heureux de voir que tout se passe bien en ce moment avec ton projet. Mais pour les gens qui nous écoutent, quel est ton parcours, Martin, et comment tu es venu à travailler sur Écou?
Ben, Martin, écoute, Gad, ça me fait plaisir parce que quand on s'est parlé, c'est, dans le fond, le Martin, il existe dans le CHU depuis 2006 exactement. Donc, à l'époque, j'avais été engagé par Microsoft pour pouvoir implanter les nouvelles technologies, donc pour permettre la communication entre les enfants qui sont hospitalisés, qui sont isolés, avec le monde extérieur. Donc, j'étais déjà dans un bassin où est-ce que les technologies prenaient leur place et on m'appelait de par mon profil entrepreneurial à agir davantage, même si à la base, je n'étais qu'un intervenant. Donc, d'implanter des nouvelles solutions. Donc, il y a une autre solution qu'on a créée qui s'appelle aussi CHU sans frontières ou NeoCam, qui permet aux parents, justement, de voir leur bébé prématuré à distance. Et en 2018, avant qu'on arrive chez toi, ben là, j'ai eu l'idée, à un moment donné, éclair, de créer un projet qui s'appelle Écou, parce que je voyais qu'auprès de mes patients, il y avait énormément d'anxiété, donc qui se vivait. On n'avait pas vraiment de solution non pharmacologique à proposer, justement, aux patients. Donc, j'avais décidé d'aller de l'avant. Donc, dans un petit coin, dans un petit bureau que j'ai réservé, à un moment donné, j'ai appelé mon collègue actuellement, qui est Simon Saint-Hilaire, qui m'a aidé à développer justement le projet Écou, en lui présentant une petite version là de ce que je voyais, de ce que j'avais comme vision.
Là, tu vois, ça m'intéresse. Comment t'es venu, Martin, à imaginer et à te dire « je vais intégrer un personnage venu d'une autre planète, puis je vais le faire entrer dans l'hôpital pour aider les enfants qui rentrent en chirurgie ». C'est quoi la genèse de tout ça?
Ben, à l'époque, avant Écou, je faisais déjà des techniques de méditation avec les enfants au centre de pédopsychiatrie et auprès des mamans en grossesse à risque élevé. Moi, de formation, j'enseigne déjà les arts martiaux. Ben, à l'époque, j'enseignais les arts martiaux. Plutôt maintenant, je n'enseigne plus les arts martiaux avec le rythme de vie que j'ai actuellement, mais j'enseignais la méditation. Donc, des techniques de relaxation et tout. Et justement, par cette inspiration-là, martiale, par cette philosophie-là, japonaise, qui vient de l'aïkido aussi, de pouvoir se centrer, d'être en contrôle de la situation, de faire en sorte que même si on vit un événement stressant, mais on a des outils à l'intérieur de nous qui peuvent, au-delà de la médication, nous permettre de gérer ça. Donc, c'est vers ça que je voulais aller. Et pour l'aspect pédiatrique, bien, j'avais décidé de créer un monde merveilleux. Et avec Simon, j'avais entamé avec lui le processus de création, mais au départ, j'ai commencé avec le terme équanimité. Équanimité qui veut dire égalité d'âme et égalité d'humeur face à l'épreuve. Et après ça, est venu la race des équanimes et il est venu le beau personnage des coups, là. On va pouvoir discuter ensemble, ouais.
Ça me parle beaucoup ton affaire, Martin. L'égalité d'âme, d'humeur, de sérénité. Je comprends maintenant d'où ça vient par ton background. Mais on a Eku qui enseigne des techniques de relaxation. Mais c'est quoi réellement ta solution?
Ben, la solution en soi, elle était vraiment et elle s'est développée avec l'expérience du plancher. Donc, c'était pas des notions qu'il fallait que j'invente ou quoi que ce soit, ou une idée qui est venue de l'externe. C'était vraiment en lien avec la clientèle. Donc, puis dans un contexte hospitalier, c'est extrêmement anxiogène. Il y a toujours des pompes, il y a toujours quelque chose. On a bien beau dire, bon, ben là, maintenant, vous allez respirer, vous allez penser à une belle image, tout ça. Donc, souvent, le résultat n'est pas optimal dans cette optique-là où est-ce qu'on va vers la visualisation. Par expérience, j'avais découvert que la contraction musculaire induisait à la détente. Et ensuite de ça, on proposait les exercices de respiration. Et tout ça, c'est fait dans une narration, parce qu'il fallait accompagner justement les néophytes. Il y avait des gens qui étaient habitués à la méditation. Il y a des gens qui n'ont aucun outil ou qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, en plus, Eku, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, c'est une histoire merveilleuse qui outille nos patients face à l'anxiété et qui leur donne des techniques de contraction musculaire et de respiration. Et on a eu des beaux résultats probants aussi, là. Fait que ça, c'était fantastique. On avait des beaux résultats. Les gens se sentaient détendus et on a des beaux commentaires. Vraiment, là, on change vraiment là, l'expérience de l'hôpital. On change vraiment ça.
Bon, j'ai Eku qui donne des techniques de respiration qui aident à relaxer, mais concrètement, c'est quoi l'expérience Eku?
Bon, parfait. Oui, je te comprends. Écoute, dans le fond, je vais aller de A à Z. Comment est-ce que le patient vit cette expérience-là? Donc, le patient, 20 minutes avant le départ au bloc opératoire, l'infirmière vient lui installer les lunettes de réalité augmentée. Pourquoi réalité augmentée au lieu de réalité virtuelle? Réalité augmentée, c'est qu'on voit toujours notre environnement. Et en plus, on voit des hologrammes qui apparaissent avec nous. Ça, c'est une philosophie que je voulais amener. Où est-ce que la réalité virtuelle, oui, a des avantages positifs, mais où est-ce que la réalité augmentée, elle, n'amène pas cette forme-là de déni où on doit cacher ce qu'on a à vivre. Donc ça, au niveau de l'intervention clinique, je trouvais ça très important. Donc, on a une belle porte des étoiles qui apparaît devant le patient. Un coup que les lunettes sont installées. L'infirmière, tout ce qu'elle a à faire, elle appuie sur un piton qui s'appelle Play. Et là, l'expérience démarre. La porte des étoiles apparaît. On a deux protagonistes. On a Eku et Constellation qui se présentent, qui disent à quel point l'enfant qui est devant lui est spécial et qui a été choisi et qui a tout en lui pour passer au travers l'expérience. Et là, s'ensuit les exercices de contraction musculaire que Constellation et Eku montre à l'enfant. Ensuite de ça, technique de respiration exécutée, l'enfant quitte sa chambre pour aller vers le bloc opératoire. Et en quittant sa chambre vers le bloc opératoire, tous les murs du département de chirurgie cardio-pédiatrique ont été peinturés en monde d'Eku. Et nous, ce qu'on a fait avec le projet, on s'est dit, ben OK, même si Eku continue à accompagner l'enfant pendant qu'il est dans le corridor et qu'il vole devant lui, ben ça serait intéressant qu'il y ait des éléments attractif puis interactif aussi autour de lui. Donc, lorsqu'il regarde un certain arbre qui vient du monde des coups, ben là, il voit des fleurs qui sortent du mur. Il peut les attraper avec ses mains. Il entend les oiseaux. Il y a certaines affiches aussi qu'on met à des endroits clés qui font apparaître un hublot auquel il voit des équanimes qui sont des amis de Eku et qui jouent à différentes activités. Donc, l'univers est animé. L'univers devient féerique. Et là, il se dirige vers le bloc opératoire, toujours accompagné d'Eku. Et là, rendu au bloc opératoire, bien là, l'anesthésiste dit merci à Eku. Et là, Eku tombe en mode, pas endormissement, mais en mode, on se comprend. Donc, là.
L'anesthésiste peut quand même contrôler Eku dans le bloc opératoire, quoi.
Exactement. Donc, l'anesthésiste s'appuie sur une touche et là, Eku dit à l'enfant, respire dans le masque que mon ami te présente. Il prend des grandes respirations, comme on a appris dans les exercices de respiration. Ensuite, l'enfant s'endort. Et lorsqu'il se réveille, il y a Toutou dans ses bras avec lui et il repart à la maison.
Écoute, ça m'a l'air vraiment cool. Donc, tu te souviens, quand on s'est rencontrés, on avait regardé le potentiel technico-commercial de ta solution. Chez Axelis, c'est généralement l'étape initiale. On analyse la maturité technologique, la stratégie de propriété intellectuelle, la concurrence ou l'unicité de la solution, les composantes du marché, mais aussi la proposition de valeur de ta solution. Ce qu'on avait trouvé à ce moment-là, c'est que Ekou, à notre connaissance, était la seule solution qui utilisait la réalité augmentée et non la réalité virtuelle. Qui, en fait, la réalité virtuelle est plus un détournement de l'attention de l'enfant par le jeu. Mais je suis curieux, Martin, est-ce que l'enfant fait vraiment ce que Ekou dit de faire?
Oui, vraiment. D'ailleurs, on a des commentaires de ça, de parents qui disent que hey, maintenant, mon enfant, lorsqu'il arrive à l'école ou qu'il vit une période d'examen ou d'anxiété difficile, ben, grâce à Ekou, il a appris c'était quoi la contraction musculaire. Mais parce que les parents aussi s'informent toujours de ce que l'enfant vit avec l'expérience. Et là, c'était fascinant de voir cet aspect-là qui était mis de l'avant. Donc, et l'aspect virtuel, ce qui arrive, c'est que oui, c'est un aspect plus gaming. Nous, c'est un aspect très ludique. Et aussi, au-delà du virtuel, ce qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est qu'on n'a pas besoin de manette. Donc, on utilise les mains pour manipuler les choses. Donc, on peut développer la dextérité fine, la dextérité plus générale, dextérité moteur. On fait des casse-têtes. On incite le patient aussi à bouger avec ses propres doigts, ses propres mains. Donc, il y a un contact avec la réalité qu'il voit, là.
Ouais, ouais.
Il n'est pas isolé non plus. Et il y a aussi ces aspects-là où ce qu'on entend souvent, là, lors de la réalité virtuelle, les mots de cœur qu'on ne ressent pas du tout avec la réalité augmentée. Ils ont tous les deux leur avantage, par contre, dans certains contextes spécifiques. Donc, c'est comme la réalité virtuelle, ça, mettons, on est dans un... On touche à un aspect où est-ce que la douleur est très aiguë. Ben, parfois, ça peut être nécessaire. Même si la réalité augmentée, elle, va permettre toujours ce contact-là de voir l'intervention. Mais la réalité virtuelle peut avoir cette nécessité-là, ce petit plus-là qu'elle apporte là, parfois.
Donc, on a fait notre analyse, puis ce qu'on appelle chez nous un plan de valorisation qui contient, par exemple, le plan de développement de la solution. Et pendant cette réflexion, il manquait vraiment quelque chose à ta solution. On s'est aperçu que, pour être vraiment intéressante, il manquait un résultat de recherche pour appuyer l'hypothèse sur la diminution de l'anxiété des enfants. Puis c'est dans ce contexte qu'Axelis a pu donner un financement en partenariat avec le MEI pour faire une démonstration.
Ben oui, et c'est là toute la magie d'Axelis. Donc, Axelis a donné une véritable valeur ajoutée au projet. Elle a permis d'identifier, d'ailleurs, projet de recherche qui a été publié début novembre et qui est unique en soi parce que c'était une première recherche exécutée avec la réalité augmentée dans un contexte de régulation d'anxiété. Donc ça, c'est une autre belle fierté qu'Axelis a permis de concrétiser. Ouais. Et qui a démontré qu'on baissait du plus du tiers l'anxiété vécue par les patients, ce qui n'est pas rien. Donc, on se trouve avec une idée qui était géniale, mais au-delà d'être géniale maintenant, on le sait qu'elle a une portée clinique. Elle n'est pas juste ludique. Donc, ça fait toute la différence. Et Axelis a permis de faire naître cette valeur ajoutée-là par son financement et par son implication.
Martin, on sait qu'un projet d'innovation comme cela, c'est... avant tout une équipe. Est-ce que tu peux nous présenter les membres de ton équipe?
Oui, bien, autour des coûts, il y a les équipes cliniques de base du CHU de Québec qui ont permis l'implantation du projet. Il y a Axelis qui m'a accompagné avec toi pour justement tout ce qui est aspect financier et recherche et validation de cette valeur ajoutée-là. Il y a aussi l'équipe du laboratoire CODOT avec Sébastien Tremblay de l'Université Laval qui s'est impliqué aussi dans le projet de recherche. Et il y a Simon qui est mon développeur. Et certaines firmes avec qui on a fait affaire au niveau technologique là, pour les animations. Donc, c'est tous les gens qui m'entouraient. Et Dr Branzi aussi, Dr Myriam Branzi, qui est avec nous. Et il faut dire que ce projet-là, avec ces équipes-là qui m'entourent, est développé en synergie avec les besoins du patient et l'infirmière. Parce qu'en soi, écoute, oui, il baisse l'anxiété du patient, mais on a réalisé aussi que c'est un écosystème qui pouvait aussi améliorer l'environnement de travail des infirmières. Et aussi accentuer le traitement de la fluidité du traitement des patients. Donc, c'est extraordinaire. On a réussi de voir certains angles qu'on ne voyait pas dès le départ là, dans l'évolution du projet.
Puis, la Fondation du CHU de Québec, qu'on remercie, qui a contribué à faire le match sur le financement en tant que partenaire. Notre question pour toi, Martin, c'est quoi la propriété intellectuelle dans ce projet-là?
Ben, la propriété intellectuelle, premièrement, du projet, tout ce qui a trait à l'univers des coûts, cela appartient au CHU de Québec. Donc, ouais.
Donc tout ce qu'on a développé des droits en d'auteur. Interne, ouais. Ouais, des droits d'auteur, ouais.
Qui sont autour du projet ECOU. Et là, pour la suite, des coûts du développement et pour aller vers l'externe, c'est de trouver cette agilité-là. Et c'est là qu'Axelis rentre en ligne de compte aussi, là, de donner cette agilité-là, cette souplesse-là à un projet merveilleux pour qu'il puisse prendre son total plein potentiel au niveau de son épanouissement, là.
Donc, on a pu terminer le projet de validation qui s'est soldé par des résultats quantitatifs qui démontrent que la solution est franchement prometteuse. Donc, on veut maintenant exploiter ces résultats au travers d'un projet d'entreprise. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est quoi la suite des choses, Martin?
Là, premièrement, on est dans les premières étapes. Axelis m'a mis en contact avec l'Esplanade. Oui. L'Esplanade qui, elle, a créé l'activité Collision de l'innovation, Collision Santé. Donc, on a une cohorte où est-ce qu'il y a des idées entrepreneuriales qui visent soit à optimiser certains processus au niveau de notre système de santé ou des nouvelles approches là, pour aider les patients. Donc, on a plein de petits entrepreneurs comme ça qui visent le mieux-être des patients. Et on est accompagné là, par eux. Ce qui est super intéressant, c'est que l'Esplanade nous permet de nous mettre en contact avec des acteurs qui autrement, j'aurais pas pu ou le projet n'aurait pas pu être en contact et permettre justement des voies d'entrée qui nous étaient inconnues. Donc, quelles sont ces voies d'entrée-là pour faire en sorte que les coûts puissent s'y implanter là, vers un autre hôpital ou vers un besoin particulier?
Donc oui, excellent. Le partenariat, l'écosystème, c'est vraiment super important. Il faut franchement que tout le monde mette la main à la pâte pour que cela fonctionne, et pour qu'on puisse faire sortir les meilleures solutions avec un grand potentiel d'impact, que ça soit d'une manière économique, sociale ou environnementale. Splanlab, c'est un partenaire d'Axelis, un incubateur dans l'innovation d'impact avec un axe santé communautaire. Je crois que cela rentre vraiment dans ta trajectoire, Martin. Martin, toi, tu es en plein dedans, là, en ce moment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est comme toi, que ce soit dans un laboratoire, dans un hôpital, dans une entreprise, et qui voudrait innover?
Quelqu'un qui veut commencer à innover, ben, premièrement, valider l'impact de cette idée-là. Est-ce qu'elle répond à un réel besoin manifesté par le plancher? Oui, des fois, on a des bonnes idées, mais est-ce que cette idée-là répond à un besoin? Et est-ce que cette idée-là aussi est en phase avec les valeurs du porteur du projet? Ce qui est extrêmement important parce que c'est porter un projet comme ça d'innovation, ben ça engendre des changements. Et quand on engendre des changements, ben il faut être fort pour faire face parfois au vent contraire, même si ce qu'on a derrière nous est fantastique. Donc, et promouvoir justement là la promotion, la formation. Donc, oui, d'avoir cette idée-là et de la valider là, avant d'entamer tout ce processus-là.
Ouais, ben merci. C'est vraiment un beau partage. Donc, merci beaucoup, Martin. Je te souhaite une bonne réussite avec ECOU, puis on se retrouve plus tard.
Merci, Gad. Ça fait un réel plaisir.
Ben, le plaisir est partagé.
L'épisode sur ECOU est déjà terminé. On espère qu'il vous a plu. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Et si vous êtes curieux ou simplement que vous êtes dans une université, dans un établissement de recherche publique et que vous avez des travaux de recherche à valoriser, simplement nous envoyer un email sur innovation@axelis.ca. C'était De la recherche à l'impact, le podcast de l'innovation québécoise issu de la recherche publique. On vous souhaite de changer le monde une innovation à la fois.